Europe 1,
9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine du club de l'été. Alors pour entrer au club, vous le savez, pas besoin de carte de membre, juste d'une bonne dose de curiosité pour le théâtre, la musique, le cinéma, les séries, mais aussi une bonne dose de gourmandise. Nous avons 2 heures pour partir à la découverte de notre patrimoine culturel et gastronomique avec à mes côtés Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Mounz, expert gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour Lise, bonjour à
Comment
tous.
Comment ça va en ce lundi? Est-ce que le week-end
bien.
A été bon?
Gourmand, évidemment.
Ah, qu'est-ce que vous avez mangé Sophie Mounz?
Ça ne vous regarde pas.
Ah bon? Moi j'aime bien tout savoir.
Bon, le mien a été sportif, assez sage au niveau de la gourmandise.
Ah, vous voulez que je vous dise, allez, bah, j'étais oui. à Bruxelles, j'ai mangé un paquet de frites.
Oh là là.
Ouais, c'est très très banal, mais ça fait un bien fou.
J'imagine. Sophie Massieu, vous nous emmenez dans une région où notre invité a passé beaucoup de temps dernièrement. Où précisément?
Alors, on ira près de Toulouse, mais nous, on ira exactement en Ariège, voir un
Très
truc
bien.
Incroyable, vous verrez.
D'accord. Et Sophie Mounz, à Toulouse, dans la région, en tout cas, on mange une pâtisserie bien particulière.
Oui, le Fénétra. Oui. Peut-être notre invité le connaît-il.
On verra.
On fera un petit test et puis on parlera évidemment de confiture
ah oui,
maison. C'est l'occasion ou jamais de s'y mettre. On est en congé, on a du temps pour soi.
Bah oui, qui dit nouvelle semaine dit nouveau thème. Donc, toute
voilà.
cette semaine, on parlera de confiture avec vous. Nous aurons 2 heures pour parler de nourriture terrestre et spirituelle. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. N'hésitez pas à réagir sur Twitter. Le hashtag c'est Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Notre invité est comédien. La toute première fois que vous l'avez vu, c'était peut-être au cinéma ou bien au théâtre. L'après-midi, c'est encore mieux. Portrait sonore.
Achik!
N'envisagez pas la vaginoplastie. Ah oui, c'est très cher. Moi, hier, j'ai payé un melon 5 euros.
Sébastien. Qui était-ce?
Un certain monsieur Châtaigneau.
Eh bien, je ne le connais pas. Châtaigneau? Le mari de ma maîtresse, qui de surcroît est marchand d'armes, un foutu libido.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
Vicky, c'est votre ami?
Oui.
Et Normoutier, c'est votre ami aussi?
Oui.
Et tous les deux, vous partagez la chambre 650?
Oui.
Alors vous faites quoi en peignoir en 648?
Besoin de rien, envie de toi.
C'est ça, hein.
Comme jamais.
Je vais vous expliquer, c'est un petit plaisir personnel. Bonjour Sébastien Castro.
Bonjour les Sophie.
Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes à l'affiche bientôt de J'ai envie de toi, une comédie que vous avez écrite et qui est mise en scène par José Paul, à voir à partir du lundi 29 août, je ne sais même pas si c'est un lundi.
C'est un jeudi.
Au Théâtre Fontaine à Paris. Nous allons évidemment en parler plus longuement tout à l'heure. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sons vous avez décelés dans ce petit portrait sonore?
Oui, j'ai tout retrouvé sauf le dernier.
Ouais, je vous expliquerai pourquoi.
Oui,
ouais,
oui. Vous ne voulez pas commencer par l'explication?
Non, je le garde pour la fin. Dites-nous.
On a commencé par Samantha Oops.
Oui.
Premier tournage. Je peux pas vous dire l'année.
Alors, ça a été diffusé entre 2004 et 2007, cette petite série. Donc c'est à peu près à ce moment-là, je pense, en 2004. C'était 5 minutes un peu absurdes, il y avait la blonde, la brune.
C'est ça. Et je fais une petite apparition d'une minute 15. Et c'était mon premier tournage, donc c'est un souvenir ému.
C'est vrai?
Oui.
C'était assez sympa cette mini-série qui était diffusée sur France 2, c'était une courte pastille. Ça s'est arrêté.
Ouais, ça cartonnait et ça s'est un peu arrêté du jour au lendemain.
Ouais, comme pas mal de choses malheureusement à la télévision.
Oui.
Vous avez reconnu quoi d'autre?
Alors, dans le désordre, il y a eu C'était encore mieux l'après-midi, scène avec Rudi Milstein.
Tout à fait.
Voilà.
C'était en 2017 au Théâtre Héberto.
Absolument. Puis au Théâtre des Nouveautés, puis en tournée.
Oui.
On a eu une scène avec Alex Lutz de l'émission Made in Palmade qu'on faisait sur France 3. Qu'est-ce qu'on a eu? Vaginoplastie, ça c'était...
Oui, il faut nous expliquer.
Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai eu un moment d'effarement.
Oui, mais pourtant, c'est vous.
C'est
bien vous qui parlez.
Oui, oui. Ça, c'était mon seul en scène à la Comédie de Paris. Toutes mes condoléances.
C'est le nom du seul en scène.
Oui, bien sûr. J'ai envie de toi, toutes mes condoléances. Voilà. Oui. Ça peut donner lieu à des quiproquos.
Un petit peu, oui.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Série de Anne Giafferi sur M6. Avec Laurent Deutsch, notamment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre?
Il y a eu Toute première fois aussi.
Toute première fois, film de Maxime Govard et Noémie Saglio.
Voilà.
Super film. Très content de faire partie de l'aventure. Et
vous étiez Nounours, c'est ça, aux côtés de Pio Marmaille et de. Il y avait Camille Cotin aussi.
Absolument. Je faisais un peintre qui dessinait des vagins. Donc voilà. Finalement, il y a un thème.
Finalement, c'est ça revient dans votre carrière, finalement.
On va faire une petite psychanalyse allongée.
Là, j'y étais pour rien.
Oui, non,
on m'avait choisi pour faire ça.
Voilà, c'est peut-être qu'on vous avait vu dans votre seule en scène. On s'est dit, c'est la personne qu'il faut pour ce rôle.
Attendez, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai reconnu d'autres choses.
Je crois que vous avez tout dit. Le besoin de rien, envie de toi, donc Victor Eastwood. Parce que voilà, c'est le nom de votre dernière pièce, c'est J'ai envie de toi. Ah. Et en fait, comme vous l'avez remarqué, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux première fois? C'est des chansons, en fait. Oui. Vous avez un toc avec ça? Vous aimez bien les séries ou les pièces qui ont des titres de chansons? Bon, j'ai un peu triché pour Victor Eastwood, j'avoue, mais bon.
Mais j'aimais bien, mais c'est faux. Non, j'aimais pas du tout.
D'accord.
Ils ont été numéro 1 au top 50 quand j'avais.
C'est vrai?
C'était la génération.
Ouais.
Et ils sont restés très très longtemps et je ne comprenais pas. Mais j'ai rien contre eux du tout.
Nous non plus. Hein. Ouais. Nous non plus. Non, mais c'est pour ça, parce que comme ça s'appelle J'ai envie de toi, voilà, ça a rappelé une autre chanson. La pièce ne s'appelle pas J'ai besoin de rien, envie de toi, ça s'appelle juste J'ai envie de toi. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi.
Ah oui.
Oui.
Vous voulez qu'on le fasse maintenant?
Allez-y.
C'est vrai?
Oui.
Ah ben je vais vous parler de la pièce alors.
Ouais, allez-y, ouais. Non, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais juste en quelques mots, puisque...
Alors, ça part d'une bourde qui nous arrive... Enfin, moi, ça m'est arrivé, je sais pas
vous. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois, en fait.
Parce que... dire de quoi il s'agit.
Oui. Non, pardon. Ah non. Vous savez quoi, on va faire un petit teasing, Sébastien Castro, j'ai envie qu'on dise rien. Voilà, on va poursuivre notre conversation. Okay. Non, on le dira juste après. Le stand-up de Patrick Bruel sur Europe 1.
Viens, on prendra des chemins que tu ne connais pas. On perd, on gagne, tu sais bien. La vie c'est ça, belle comme elle est, quand le ciel s'ouvre par endroits. Non, ne lâche pas, ne laisse pas décider pour toi. Stand up. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Oui, y a des hauts, y a des bas, on en rira. Vis aussi fort que tu dois, mais vis aux éclats. Va où tu veux, où tu peux, où tu dois, mais joue le jeu. Sous les affronts, dans les tant pis, les tempêtes, tu peux crier ton nom. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Toi et moi, on pourrait vivre tout ça. Et moi, on a déjà tellement fait de pas, toi et moi. Mais moi, sans toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
C'était Patrick Bruel sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. A tout de suite.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Lise Pressac.
Il est 9h20, nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du Club de l'été avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Sébastien Castro, on a fait un petit teasing avant la pub, mais moi j'aime bien attendre un petit peu. Vous jouez dans J'ai envie de toi, pièce que vous avez écrite et que José Paul met en scène. À vos côtés, Maude Le Guenédal, Anne-Sophie Germanas, qui jouait aussi dans C'est encore mieux l'après-midi, absolument, si je ne me trompe pas. Astrid Ross, je prononce bien son nom.
Très bien.
Guillaume Cléris et Alexandre Jérôme.
Absolument.
Moi, c'est Youssouf.
Youssouf.
Ma mère était hôtesse à Royal Air Maroc.
Enfin, c'est pas le problème.
Oui, non, le problème, c'est que j'ai envoyé un texto et que je me suis trompé de destinataire.
Ah, ça m'est déjà arrivé. Je voulais envoyer un texto à ma sœur.
Oui, et... on s'en fout.
Et c'est l'ex de Guillaume, Christelle.
C'est moi.
Qui a reçu le texto.
C'est une catastrophe.
Mais non. Il y avait écrit quoi dans ce texto?
J'ai envie de toi.
C'est une catastrophe.
On va se régaler.
Donc voilà, vous l'aurez compris, une histoire d'erreur d'envoi de texto, comme ça nous est tous déjà arrivé. Mais il y a des erreurs de destinateurs plus embêtantes que d'autres, oui, on va dire. Donc Guillaume pense écrire « J'ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, mais il envoie le texto par erreur à Christelle, son ex. Alors la soirée commence mal, mais elle dérape encore plus quand son voisin s'invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare les deux appartements. Alors on est clairement dans le vaudeville avec tous ses codes, mais aussi toute son exigence, Sébastien Castro. En quoi justement ce qui paraît être un genre léger est en fait l'un des plus durs à écrire et à mettre en scène? Il y a une dynamique implacable.
Il y a une construction.
Oui.
Les meilleures pièces de boulevard sont a priori très très bien construites. Ça ne se voit pas, parce que quand c'est très bien fait, on ne voit pas le travail.
Vaut mieux, oui.
On ne voit pas les ficelles.
C'est ça.
Mais c'est ce que, c'était le défi que j'ai voulu relever. Quand on a joué justement, c'était encore mieux l'après-midi, avec José Paul, on a pris un plaisir immense à jouer cet excellent boulevard. Et, sauf que c'est un boulevard qui avait été écrit il y a 30 ans, qu'on avait réadapté, qu'on avait modernisé. Et là, l'envie commune avec José Paul, c'était de jouer une pièce de boulevard avec des sujets contemporains. Et du coup, je l'ai écrite.
Bon, oui, en toute modestie, c'est la première que vous écrivez. Hein.
Oui, c'est la première que j'écris qui est montée. J'ai écrit une pièce il y a presque 10 ans qui est restée dans un tiroir. Donc,
pourquoi elle n'a pas trouvé preneur, ou vous n'avez pas osé la présenter?
Je l'ai faite lire à José Paul, avec qui j'avais déjà très envie de travailler. Il m'a fait des retours très constructifs où il me disait que les dialogues étaient très bons, mais qu'il y avait un problème dans la construction et que pour lui, c'était un problème rédhibitoire. Et il avait totalement raison. Et des bons dialogues, s'il n'y a pas les fondations, ils ne servent pas à grand-chose.
Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pourriez la reprendre et en vous disant, ça y est, c'est au fond du tiroir, on laisse tomber?
Je n'ai jamais osé la relire.
Oui,
je n'ai pas assumé de la relire. Mais voilà, 8 ans après... voilà, quand il m'a dit ça, je me suis dit très constructif, je le saurai pour la prochaine, et j'ai quand même mis 8 ans à m'y mettre. Mais je suis très content de l'avoir fait.
Mais pour pouvoir écrire des pièces comme ça, il faut soi-même avoir joué dans ce registre. Bon, on sait que vous avez joué du Phèdre, etc. Il faut d'abord bien pouvoir le jouer pour pouvoir après l'écrire.
C'est pas une obligation, non, mais je sens que ça m'a énormément aidé d'en jouer beaucoup. Et de commencer au bout d'un moment à comprendre le mécanisme.
Alors, le décor était très important dans C'est encore mieux l'après-midi. Oui. J'imagine que dans celui-là aussi, c'est-à-dire qu'il faut
comment
construire...
Comment vous savez?
je me doute.
Il est capital.
Bah, j'imagine. Parce qu'en fait, ça tout repose un peu là-dessus. Parce qu'il y avait, en tout cas, dans C'est encore mieux l'après-midi, il y avait 3 décors en un. Il fallait passer d'une chambre à l'autre.
Exactement.
Et j'imagine que dans celui-ci, vu qu'il y a une histoire de cloison et d'appartement...
Et placard.
Je ne suis pas complètement... je me dis, bon,
bravo,
ça doit être très, très important.
Oui, il y a 2 appartements. L'appartement de Guillaume et l'appartement de Youssouf. Ouais. Il y a le palier qui relie donc les 2 appartements, et il y a le fameux placard. Ça m'amusait de détourner un peu le placard.
Oui, il n'y a pas d'amant dedans.
C'est un lieu de passage, puisque le placard a été abattu et que ça devient un lieu de passage entre les 2 appartements.
Et une perte d'intimité aussi, du coup.
Ah oui,
il n'y a plus de cloison entre les 2 appartements. Le voisin, déjà que c'était compliqué de s'être trompé de destinataire de texto, si en plus le voisin... Et témoin de tout ça.
C'est pas le bonjour pour que tu t'arrives.
Non, c'est pas le bonjour. Alors vous le disiez, c'est les ressorts ancestraux du boulevard. Il y a notamment une construction classique. On a une unité de lieu, de temps et d'action, mais les thèmes sont évidemment modernes. Vous le disiez. Alors Youssouf, votre personnage garde des personnes âgées au black pour compléter son RSA. Guillaume invite chez lui une fille draguée sur un site de rencontre qu'il n'a encore jamais vue. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Il est aussi question de bisexualité.
Oui, c'est-à-dire de bisexualité, mais même pas nommée et totalement décomplexée. C'est-à-dire que le personnage de Christelle dit qu'elle n'aime que si elle aimait. Voilà, elle dit au personnage de Sabine, elle dit si j'aimais les nanas, je vous aurais emballé direct.
Oui.
Donc on se dit bon, bah a priori bon, c'est pas son truc.
Voilà, si elle s'emballe pas direct.
Voilà, mais il va quand même se passer deux trois bricoles.
Quelques petits signes. Pourquoi c'était important justement d'avoir aussi des thèmes ancrés dans notre société d'aujourd'hui?
Déjà, c'est ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est que José m'a dit, en fait, j'avais très envie de reprendre cette pièce, c'était encore même l'après-midi que j'avais vu quand j'avais 10 ans. C'était un peu, enfin voilà, ma Madeleine de Proust théâtrale.
C'est de Ray Cooney qui a été adapté par Jean Poiret, c'est ça.
Tout à fait. Et José, il n'était pas chaud du tout. Je l'ai convaincu, il a été d'accord pour qu'on fasse une lecture. On a fait la lecture, il a dit c'est quand même d'une efficacité redoutable. Et il m'a dit, bon allez, on y va, mais j'aurais quand même préféré que ce soit une création. Mais on y va quand même parce que c'est extrêmement drôle. Et on l'a faite. Et après, il m'a dit, la prochaine, en revanche, il faut que ce soit une création. Donc, c'était le deal. Et qui dit création, dit bien sûr parler de sujets de son époque. Et on a un peu cherché et on n'a pas trouvé. Donc, j'ai écrit la pièce sans lui dire. Rien dit. Et quelques mois plus tard, je lui ai dit, j'ai peut-être quelque chose à te faire lire. Il me fait, ah super, t'as trouvé une pièce. Je lui dis, je l'ai écrite.
Ouais. Vous deviez avoir vachement le trac, sachant que la première fois, vous avez fait des retours en vous disant que les dialogues, c'était bien, mais pas le reste.
J'étais tétanisé.
Qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, vous avez attendu derrière votre téléphone de façon maladive en vous disant, j'ai peur qu'il me rappelle.
Ça aurait pu se passer comme ça, mais je lui ai dit, je savais qu'il était débordé, qu'il avait beaucoup de pièces en retard à lire. Et je lui ai dit, je pardon de te rajouter une énième pièce sur ta pile. Et il m'a dit, non, mais il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit, dis-moi quand tu es disponible et je te l'apporte à ce moment-là. Et il me dit, dans 2 semaines, on venait de commencer les représentations, c'était encore l'après-midi. Il me dit, laisse passer 15 jours et quand je serai, on sera à l'aise, tu me l'apportes. Les 15 jours passent, je lui apporte la pièce le samedi. On jouait 2 fois le samedi, en matinée et en soirée. Je lui apporte la pièce avant la représentation de l'après-midi. Et il me dit, enfin dans ma tête, je me dis, voilà, il va la lire le week-end.
Oui, voilà.
Et au mieux, il m'en reparlera mardi, ou pas.
Ou pas.
Et ça peut être très long.
Oui, c'est ça. La semaine peut passer
le
très lentement.
Le week-end s'annonce long, oui.
Et puis, le samedi, la matinée passe. Entre la matinée et la soirée, on va tous dîner. José ne vient pas dîner. Je me suis dit, il est fatigué, il reste dans sa loge, il fait ce qu'il veut. Et puis, on joue la soirée. Et puis, on se dit au revoir. Et là, il me dit, bon, il faut qu'on s'appelle quand même. Je me dis, mince, pourquoi il me dit ça? Il vient me passer un savon. Oui. Non, mais je ne savais pas du tout. J'ai pas
oui,
du
vous
tout
pensez que c'était par rapport à la pièce,
par
pas
rapport
par rapport à la
qu'on venait de jouer.
Voilà, c'est ça, pas
et
celle que vous aviez écrite.
Je me suis dit, il trouve que j'en ai fait trop. Enfin, voilà, pas du tout. Et je lui dis, oui, bien sûr. Et il me dit, oui, non, parce qu'il faut qu'on parle de ta pièce. Je lui dis, mais tu ne l'as pas lu? Il me fait, si, entre les deux. Et il s'en va. Je me dis, mais c'est
comme
monstrueux.
Ça mais c'est horrible de faire
de la torture.
Mais c'est de la torture.
Mais il fait quelques mètres et il se retourne. Et il me dit.
T'inquiète pas.
Non, il me dit 3 mots. C'était super.
Waouh.
Voilà. Donc, je suis rentré en disant, bon, tout va bien.
Oui. On ne touche plus le sol, là, j'imagine.
Oui, c'est ça, le monde nous appartient.
Du tout.
On se sent le roi du monde.
Parce que je me dis, je sais qu'il en lit énormément.
Mais oui.
Je sais qu'il en monte très peu. Il en monte 1 ou 2 par an. Oui. Et il a tellement raison. Mettre en scène une pièce, c'est un investissement colossal. Et ça prend énormément.
Prend toute la tête, non?
Ça prend toute la tête. Donc, il est incapable d'en monter 4-5 par an. Et je me dis, s'il me dit ça, c'est qu'il ne va pas m'annoncer demain qu'il ne la monte pas. Ça veut dire qu'a priori, il va la monter. Et ça veut dire que je ne me suis pas complètement planté.
Et quelque chose me dit que c'était avec lui ou personne d'autre, quoi. Votre collaboration, c'est quelque chose qui a l'air d'être précieux.
Oui. S'il m'avait dit non, je sais pas ce que... Peut-être que je l'aurais...
Mis dans un tiroir?
Ouais. Donc c'est bien qu'il ait dit
ouais,
oui.
Ouais, c'est bien. On le remercie. Merci José-Paul d'avoir
merci
dit oui. Dans un instant, Sébastien Castro, on va partager avec vous nos coups de cœur culturels. Vous allez en partager aussi.
Oui.
À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
On va lui rentrer dedans, ouais, on n'a pas le choix.
T'es complètement malade.
Ouais, moi je suis une aventurière, moi.
Lise Pressac.
Merci à Loïc. Quand je parle de rentrer dedans, je parle des disques, hein, Sébastien Castro.
Je reste
sympathique. Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Bon, d'ailleurs, je ne devrais même plus dire comédien maintenant.
Pourquoi?
Parce que vous avez créé une pièce. Maintenant, on est upgradé. Alors, quand vous a demandé quel était votre coup de cœur culturel, vous avez parlé de ce film.
The Palme d'Or goes to.
Revient à.
Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon infosale et méchant marque le retour de Bong Joon-ho dans son pays après 2 expériences en langue anglaise. Avec Transpersonnage et Okja présentés en compétition à Cannes voilà 2 ans, il s'agit de la toute première Palme d'Or pour la Corée du Sud.
Alors, Parasite du Sud-Coréen Bong Joon-ho, qui a remporté donc cette année la Palme d'Or à Cannes, on vient de l'entendre. Alors déjà, sachez que c'était aussi le coup de cœur de l'écrivain Daniel Picouli, qui est venu nous rendre visite jeudi dernier.
Ah, j'aurais dû me renseigner, on choisit
un autre. Ah non, pas du tout. C'est secret, parce qu'on a les réponses, c'est secret, donc non, vous inquiétez pas. Non, mais c'est bien d'en parler deux fois. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film ?
J'ai adoré oublier complètement que je regardais un film et rentrer dans l'histoire de façon incroyable. J'ai eu l'impression que ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là. Et forcément, quand on fait ce métier, on ne peut pas s'empêcher de décortiquer, d'analyser, parfois de juger. Et c'est très rare de se laisser vraiment porter, de redevenir un simple spectateur et d'être à 100% dans l'histoire et de jamais décrocher.
Et qu'est-ce qui a fait ça, justement ? Parce que c'est le fait que ce soit dans un univers totalement différent ou c'est... Vous avez réussi à l'analyser ?
Je l'ai revu une deuxième fois pour essayer de comprendre et je me suis laissé avoir...
Une deuxième fois ouais. Et vous n'avez pas décortiqué même à la deuxième ?
Je me suis dit que le scénario était mais redoutable.
On est d'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 secondes de temps mort. Il y a peut-être 10 secondes de temps mort seulement, à un moment donné, enfin je ne veux pas dévoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais à un moment donné, quand ils sont...
Oui, voilà. Il y a une soirée arrosée. Voilà.
Et la première fois, je me suis dit, il y a peut-être 10 secondes de trop. Et en fait, je pense que c'est totalement volontaire, puisque c'est juste avant quelque chose qui va faire basculer le film dans autre chose. Et c'est comme si c'était un petit temps mort avant que ça reparte et que ça ne s'arrête plus jusqu'au bout.
C'est vrai, on vous le recommande, allez le voir une fois au moins, deux si vous avez envie, parce que c'est vraiment, c'est assez glaçant quand même, mais c'est un très 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 bon film. Alors dans ce club de l'été, Sébastien Castro, vous l'aurez compris, on aime vraiment partager nos coups de cœur culturels. Et ce matin, nous avons le bonheur d'accueillir dans ce studio Frédéric Goetti, directeur de la rédaction de Jazz Magazine. Bonjour Frédéric.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Alors vous venez nous parler aujourd'hui d'une chanteuse qu'on adore dans le club de l'été, c'est Cécile McLaurin-Salvante qui était à l'affiche de Jazz in Marsiac, c'était samedi dernier, mais qui chantera aussi le 15 août à Buis-les-Baronnies, c'est dans le cadre du festival Parfums de Jazz, où ne sont programmés que des groupes de jazz dirigés par des femmes.
Oui, et c'est d'ailleurs la deuxième année que ce festival qui se déroule dans 15 communes de la Drôme provençale met le jazz au féminin à l'honneur. Mais dites-moi, Lise, quand vous écoutez Frank Sinatra chanter par exemple « I've got you under my skin », Jeter dans la peau, ou disons Gregory Porter chanter du Nat King Cole.
Oh là là,
je ne dis pas. Votre cœur bat la chamade.
Oui, un peu.
Bon. Et bien moi, c'est pareil avec Cécile McLaurin-Salvant. Quand elle chante Look at me, regarde-moi, j'arrête tout, je la regarde, enfin, je l'écoute plutôt.
Look at me. Why don't you look at me?
Bah, je vous comprends, Frédéric. Hein. En plus, quand elle vous dit qu'elle vous regarde, elle vous demande de la regarder. Bon.
Mais attention, Cécile McLaurin-Salvant, cette citoyenne du monde d'origine franco-guadeloupéenne, haïtienne, je résume, cette chanteuse à la technique éblouissante et au timbre de voix lumineux, ne chante pas que l'amour. Comme elle maîtrise aussi bien la langue de Shakespeare que celle de Molière, elle a le don de remettre au goût du jour des chansons qu'on n'écoute plus depuis des lustres et qui n'ont rien perdu de leur force. Tiens, par exemple, Si j'étais blanche, de Josephine Baker. Ouais. On n'écoute plus assez cette chanson de 1932. Eh bien, un soir de 2007, dans un club de jazz new-yorkais, chanté par Cécile McLaurin-Salvant, ça donnait ça.
Étant petite avec chagrin, j'admirais dans les magasins la teinte pâle des poupées blondes. J'aurais voulu leur ressembler. Et je disais l'air accablé, me croyant seule brune au monde.
Alors d'habitude, Cécile McLaurin-Salvant chante accompagnée par un trio, mais au Festival Parfums de Jazz, elle se produira en duo avec son pianiste Sullivan Fortner. C'est un disque de ce duo qui est sorti l'été dernier de Window. Alors j'imagine que vous le connaissez par cœur, Frédéric.
À votre avis ?
Bof, oui.
Eh oui. Donc, il y a 17 chansons dans ce disque et on valse, on swing, on balance entre J'ai le cafard de Damien, encore une vieille chanson, Somewhere, l'une des plus belles chansons de West Side Story, ou encore Visions de Stevie Wonder. Alors, Visions de Stevie Wonder, c'est le cas de le dire, c'est une pure merveille. C'est pas sa chanson la plus connue, mais c'est en tout cas la plus bouleversante. La preuve.
Have I lived to see the milk in honey land?
Je la connais, c'est sublime, effectivement. Alors Cécile McLaurin a osé reprendre cette chanson ?
Mais rien ne résiste aux femmes qui osent aller au cœur des choses, ma chère Lise.
C'est vrai.
Vous avez pleuré en écoutant Visions de Stevie Wonder, mais vous ne sécherez pas vos larmes en écoutant la version de Cécile McLaurin-Salvant.
Is
place like this exists so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away?
Qu'est-ce qu'elle a bien fait d'oser? Vous êtes sous le charme, hein, Frédéric, nous aussi dans ce studio. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas la première fois que vous parlez de Cécile McLaurin-Salvant sur cette antenne.
On ne peut rien vous cacher.
Mais non, on ne peut rien me cacher, Frédéric.
Alors c'était en 2017, effectivement, et je lui avais notamment demandé à elle, la jeune femme noire qui vit aux États-Unis, ce qu'elle avait ressenti juste après l'élection de Donald Trump. Elle m'avait répondu en quelques mots et surtout en chantant.
Je vais vous dire ce que j'ai chanté après l'élection de Donald Trump. C'est une chanson de Irving Berlin qui s'appelle « Let's face the music and dance ». Et ça veut dire « faisons face à la musique et dansons ». Donc acceptant cette réalité assez affreuse et absurde et ce qu'on veut, mais dansons face à cette réalité. Et donc ça, c'est une chanson que je pourrais chanter. Ça fait « There may be trouble ahead ». But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance.
Wow.
Bon cadeau, n'est-ce pas?
Ah oui. Vous avez de la chance, Frédéric. Hein
il faut savoir
la provoquer, c'est ça.
Temps, vous voyez. Alors, si vous me permettez...
Je vous permets tout.
Ah, merci. Alors, en conclusion, je suis Cécile McLaurin-Salvant sur Twitter. Et ces dernières semaines, elle s'amuse, enfin c'est très sérieux comme occupation, à poster des citations du côté de Séchuan, de Proust, comme ça, régulièrement. Alors, si je puis me permettre, je vais en faire une, rien que pour elle. Je vais citer du Proust à l'antenne, si on m'avait dit ça un jour. Le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Voilà, je trouve que ces mots vont très bien à Cécile McLaurin-Salvant et à son pianiste Sullivan Fortner.
Et donc, on la retrouve à Parfum de Jazz, programmation exclusivement féminine, il faut le noter. Merci beaucoup Frédéric Goati, directeur de la rédaction de Jazz Magazine.
De
merci pour cette
magnifique
passion communicative. Sébastien Castro, vous connaissiez?
Pas du tout, elle a une voix hallucinante.
Ouais.
C'est magique.
Elle est incroyable.
La
relève de Billy Arrêta.
Non, je la connais pas. Non, n'ayez pas de complexe, Sébastien Castro. Non.
C'était magnifique. J'ai découvert comme
magnifique.
Merci beaucoup, Frédéric Goati. Vous savez que vous êtes le bienvenu dans ce club de l'été. Dans un instant, on continue de partager nos coups de cœur avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps. On se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est ça le principe du club de l'été sur Europe 1. Et comme tous les matins, nous recevons un invité VIP, membre du club à vie. Voilà, c'est comme ça. Dès qu'on arrive ici, on est membre de club à vie. C'est le comédien Sébastien Castro. Alors quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, vous nous avez répondu ça. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu ce générique, oui. Sophie Massieu et Sophie Moon. Oui, Desperate Housewives.
Non, c'est moi, j'ai pas votre ville, désolé, ça, quand même.
Alors,
aussi, hein.
L'histoire en quelques mots, pour ceux qui n'étaient pas sur cette terre ces 15 dernières années, la série raconte le quotidien de 4 femmes au foyer d'une banlieue chic américaine. Alors, il n'est pas question que de muffins et de pancakes. L'intrigue est quand même on ne peut plus mouvementée avec des secrets qu'on découvre au fur et à mesure. Et je me suis dit, tiens donc, c'est la série préférée de Sébastien Castro. Je ne m'attendais pas forcément à cette réponse, je vous avoue.
Rien que le générique, là, me met en joie.
C'est vrai, mais j'ai vu. Vous avez...
Quand
je disais les 15 dernières années, parce qu'elle n'est pas toute jeune, cette série.
Mais j'ai toujours un train de retard.
Oui, oui, plusieurs. Non, mais c'est drôle, qu'est-ce qui vous a plu?
Non, alors déjà, pourquoi c'est ma série préférée? C'est la seule que j'ai regardée en entier. Donc,
c'est une bonne raison d'être...
mais en même temps, si j'ai tenu jusqu'au bout les 8 saisons,
oui,
c'est vraiment
quand
que j'ai
même longue,
accroché.
Hein, ouais.
J'ai adoré le. Ben, je trouve qu'il y a un petit parallèle avec le théâtre de boulevard, c'est-à-dire qu'ils osent tout.
C'est vrai.
Et quasiment tout passe. Parfois non. Mais quasiment tout passe parce que c'est très bien fait, que c'est joué avec beaucoup de sincérité. Et du coup, les choses les plus énormes, on les accepte et
c'est
on
vrai.
S'en réjouit. Voilà, il y a une surenchère permanente dans les intrigues et c'est très drôle.
Et puis pour le coup, on en a trouvé des amants
Sophie
dans
Moon
les placards.
Oh là
hein
là.
Ils en ont abusé du cliché.
Ils n'étaient pas forcément dans les placards, mais il y en a eu pas mal quand même. Et depuis, il n'y a aucune autre série qui a trouvé grâce à vos yeux, en tout cas que vous avez regardé plus d'un ou deux épisodes. Enfin, je ne sais pas, commencez puis vous arrêtez, comment ça se passe?
J'ai commencé dans un autre genre, Prison Break.
Oui.
Mon accent, ça va?
Ouais, c'est très bien. Mais c'est vieux aussi, Prison Break. Enfin, moi, je le fais avec l'accent français.
C'est ça. Non, j'ai commencé par Prison Break.
Oui.
C'est comme ça que vous vous le dites.
Oui, c'est ça, moi je le dis comme ça.
Et j'ai adoré, les, je crois, j'ai tenu 3 saisons que j'ai trouvées absolument haletantes, et puis moins la 4e, donc j'ai lâché. Et on m'a dit, toi qui aimes le théâtre de boulevard, essaye Desperate. Et effectivement, j'ai adoré. Et comme j'ai adoré, je l'ai revu une deuxième fois en entier. Et là, je cherche désespérément la suivante et j'attends vos conseils.
Ah, très bien. Bah, on en a plein, nous. Hein. Il faut écouter tout le club de théâtre depuis un mois. Alors, non, mais moi, je suis en train de regarder The Handmaid's Tale. Alors, c'est pas du tout boulevard. Hein. C'est
Suis ouvert à d'autres choses.
Ah oui, alors c'est une série assez glauque parce qu'elle imagine un futur proche, les États-Unis qui sont remplacés par une dictature religieuse et puis les femmes sont encore capables de procréer parce qu'il y a une grosse baisse de natalité, oui, sont utilisées comme servantes. Vous voyez, c'est pas très funky pour les samedis soirs. Mais c'est très bien fait. Voilà, d'accord. The Handmaid's Tale, vous pouvez la noter. Je vois que vous prenez des notes depuis. Alors, ça se dit La Servante Écarlate en français. Du
très
coup,
bien.
Voilà. Et je vais vous conseiller une autre série. Alors celle-là, en plus, elle est très courte. Donc si vous vous lassez, vous allez pouvoir la zapper assez vite. Mais je pense que vous allez aimer. Je voulais vous conseiller cette mini-série très drôle. C'est la 8e et ultime saison de La Minute Vieille. C'est diffusé en ce moment sur Arte.
Ces deux mecs qui sont dans un bar, ils boivent comme des trous depuis au moins 3-4 heures.
Ils vont souvent dans ce bar, ils se connaissent bien.
Et à chaque fois, c'est tourné sur tourné.
Alors forcément, ils sont un peu bourrés.
Un peu, vous déconnez.
Oui, ils sont carrément torchés plutôt.
Le patron du bar leur annonce qu'ils ferment dans 10 minutes.
Alors les deux mecs se préparent à rentrer chez eux pour retrouver leur femme.
Le premier mec est dégoûté, il va encore se faire engueuler.
Il a beau prendre toutes les précautions qu'il faut, sa femme se réveille toujours quand il rentre.
Oui, il garde sa voiture loin pour pas se faire capter par le bruit du moteur.
Il ouvre pas le portail pour pas faire de bruit, il passe au-dessus.
Après, il passe par la porte de derrière en l'ouvrant tout doucement.
Il se déshabille dans le salon, il enlève doucement ses chaussures.
Et il monte en slip sur la pointe des pieds pour aller jusque dans la chambre.
Mais à chaque fois, sa femme est réveillée et ping, elle engueule.
C'est la Minute Vieille, c'est en fait 2 minutes et pas une de sketch par 4 excellentes actrices, Anna Strelva, Claudine Axe, Michel Herry et Sophie Sam. Elles sont chacune dans un décor différent. Il y en a une au camping devant les pyramides d'Égypte, une dans un loft new-yorkais, une en Italie et une au Japon. Et elles disent des horreurs, alors qu'ils sont d'autant plus savoureuses qu'elles sortent de leur bouche. La 8e saison de La Minute Vieille est à voir ce soir sur Arte. C'est à 20h48 précise. Il y a 30 épisodes qui seront ensuite disponibles sur le site d'Arte jusqu'en 2023. Vous avez le temps, Sébastien Castro. Ça vous laisse le temps de les voir et surtout de voir ou de revoir les épisodes des anciennes saisons qui sont encore disponibles. Il y a plus de 200 épisodes au total. Mais c'est assez savoureux et c'est fait un peu comme des petits sketchs. Et puis là, dans cet épisode-là, voilà, c'est assez vaudeville aussi.
Ça m'a donné envie. Elles ont l'air très drôles.
Elles sont très, très drôles.
On a envie de connaître la fin. On est frustrés, là.
Vous ne connaissiez pas ce programme ?
De nom.
Oui. Vous regardez la télé un petit peu ou pas du
non,
tout ?
C'est pour ça.
Ah oui, c'est
aussi.
Ça. Mais
oui.
En tout cas, vous êtes bloqué sur M6 dans les années 90, visiblement.
C'est
Prison Break et Desperate.
Ah oui, les deux, c'était sur M6 ?
Oui.
Ah mince.
Peut-être que vous aviez une chaîne, je ne sais pas. Non, vous ne regardez pas.
C'est la chaîne qui m'a le plus employé ces dernières années.
Mais
alors, c'est pour ça.
Bon,
bah
oui,
c'est
bien.
Bah, c'est de bonne guerre.
Mais vous ne regardez pas du tout des docus, les infos. Non, la télé, c'est un truc. Ça prend la poussière chez vous.
Non, mais le soir, en général, je suis au théâtre.
Oui.
C'est une bonne excuse.
Ça, c'est vrai.
Et la journée, il y a un truc où je me sens un peu coupable si j'allume la télé la journée. Je sais
c'est
pas.
Vrai.
Oui. Pression qu'il y a toujours mieux à faire. Voilà. Oui. Après, pour bien me vider la tête, j'aime bien regarder les émissions sur l'immobilier.
D'accord. Les ventes d'appart et tout ça, là,
ça
vous aimez bien.
Ça me rend hystérique.
C'est vrai.
Ah oui.
Pourquoi?
J'adore les appartements.
C'est vrai?
Oui.
Ah, vous pourriez être agent immobilier?
Ah, mais je le fais pour des amis.
Ah, mais vous feriez un super agent immobilier parce que finalement, il faut avoir beaucoup de gouailles et beaucoup de.
Ah, vous trouvez que j'ai de la gouaille?
Non, mais
ah,
de oui. gouailles. Enfin. Je veux dire, faut embobiner les gens, quoi.
Ah oui.
Je sais pas si ça peut être
un comédien, ça s'est joué plein de rôles, quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais si je le fais pour des amis, c'est évidemment, leur intérêt passe avant tout.
Oui.
Mais oui, là, j'ai une Anne-Sophie Germanaz qui joue avec moi dans la pièce, cherche un appartement.
Ah, alors, qu'est-ce qu'elle cherche? On peut peut-être
passer une annonce.
Je ne
sais
pas si je peux dévoiler son budget,
non,
tout ça, c'est un peu perso.
Non, la bien vendeur. Et donc, vous cherchez pour elle?
On avait commencé à regarder, et puis après, elle est partie en tournée pendant un an, on n'a plus eu le temps, mais on va s'y remettre à la rentrée.
Mais c'est Loïc, notre réalisateur.
Merci Loïc.
Non, mais c'est marrant que vous aimiez ça.
Et ouais, j'adore ça. Voilà. Mais c'est par phase toujours. C'est-à-dire que là, je pense que je n'ai pas regardé depuis 6 mois. Puis ça va me reprendre et puis je vais regarder ça.
Et ça veut dire que vous regardez les annonces même si vous ne cherchez pas d'appart? Vous êtes de ceux-là qui ont les alertes et tout ça au cas où.
Non, je n'ai pas les alertes, mais si je m'ennuie, je peux aller sur PAP.
Et d'accord. On a tous nos petits pubis. Non mais c'est bon, bah plutôt PAP que la télé, on aura compris. Sébastien Castro dans un instant. Ben H va nous rejoindre dans ce studio. Alors vous verrez, il est charmant, mais il est un tout petit peu mythomane sur les bords. Mais vous verrez, il est très sympathique. On le retrouve après Dépêche Mode, Enjoy the Silence sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
C'est Dépêche Mode sur Europe 1. Dans un instant, Ben H nous rejoint pour sa carte postale mythomane. A tout de suite.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Le bout en train, c'est un cheval qui est destiné à mettre une jument en chaleur. Voilà.
Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau. D'aller au galop.
Le cheval, c'est génial.
Lise Pressac.
Oh, il est 9h51 sur Europe 1. Je précise que pour le bout en train et l'explication technique, c'était Eva Rock et Olivier Pouls qui n'osaient pas le dire eux-mêmes à l'antenne et que donc je m'y suis collée parce qu'on a expliqué l'expression bout en train. Vous saviez ce que ça voulait dire, Sébastien Castro? Vous le savez du coup. Voilà, vous ne serez pas venu pour rien. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Sébastien Castro, je vous présente Ben H. Alors, il est
bonjour,
censé.
Bonjour, enchanté, Sébastien Castro.
Enchanté, ravi.
Il est
ben
censé. J'aime bien quand vous dites Sébastien Castro.
Bien sûr.
Il est censé nous faire voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes. Alors, nous sommes lundi. Où avez-vous passé votre week-end, Ben H?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vous propose un choix ce matin, Lise. Oui. Soit je vous raconte mon vrai week-end dans la vraie vie, soit je vous raconte mon habituel week-end mythomane.
Allez, on y va pour la vraie vie.
Eh bien, samedi, je suis allé chez ma mère et j'ai absolument rien foutu pendant 2 jours. Mais alors, vraiment rien. Hein, je crois qu'au plus fort de mon activité, j'ai maté une série coréenne sans sous-titres et puis je me suis endormi devant parce que je parle pas bien le coréen.
D'accord, on va partir sur la version mythomane. Alors, c'est peut-être un peu plus foufou.
Mais bien sûr, c'est vous qui voyez. voyez, Lise Pressac, hein. Eh bien, je suis allé chez ma mère et j'ai absolument rien foutu pendant deux jours, mais alors vraiment rien. Hein, je crois qu'au plus fort de mon activité, j'ai maté une série coréenne sans sous-titres, ce qui m'a permis de me remettre à cette langue que je parle couramment, comme 43 autres langues et dialectes du monde entier, bien sûr.
Bon, si je comprends bien, pas le grand voyage aujourd'hui. Hein.
Non, aujourd'hui, point de carte postale paradisiaque, pas de découverte autour du monde mythomane. On va rester chez ma mère et on va prendre un ton sobre, voire morose, car l'heure n'est pas à la gaudriole, Lise Pressac. Ah. Ça n'aura pas échappé à votre sagacité. Nous sommes effectivement lundi. Oui. Et aujourd'hui, comme lors de chaque lundi de la période estivale, un drame se déroule sous nos yeux, complice et impuissant partout dans le pays. En effet, des milliers de Français vivent à l'heure où je vous parle un véritable cauchemar dont on ne parle pas assez, la reprise du travail.
Ah oui, et certains qui nous écoutent peut-être d'ailleurs ce matin au bureau ou en voiture.
Oui, ils nous écoutent sans doute tout en comparant les prix des cordes sur Amazon, surtout. Hein. Courage les gars, c'est vrai que le lundi, déjà en règle générale, le reste de l'année, c'est plus compliqué. Mais le lundi de retour de congé d'été, ton open space, ça devient vite Guantanamo. Hein, quand Marie-Corinne vient te demander comment se sont passés tes congés pour, dès la moindre virgule de ta part, commencer à raconter ses vacances à elle au camping avec Jean-Jean et ses quatre mouflés alors que tu lui as strictement rien demandé, je te jure, t'as vite envie de remettre des tongs. Tu te rappelles alors qu'à cette heure-ci, il y a encore 48 heures, tu allais te faire une petite partie de pétanque sous le soleil et que ce matin, la Marie-Corinne, si elle épilogue encore de plombes sur la pauvre méduse qui a fait bobo à son petit Louis-Kevin, pardon, mais sur un mauvais réflexe, hein, la Marie-Corinne, elle peut vite finir en cochonnet. La méduse, elle aurait pu le bouffer, son Louis-Kevin, hein, on n'en a royalement rien à carrer, Marie.
Oh, d'accord, calmez-vous, Benet. Vous avez bien un truc positif à dire aux gens qui reprennent le travail
alors,
quand même.
Oui. Le seul truc positif de ce lundi de retour, c'est que tu peux claquer ton super bronzage made in Gerba Club, forfait all inclusive, au nez de tous tes collègues tout palo. Un réel plaisir qui n'a pas de prix. En revanche, point négatif, hein, ce plaisir implique que tu vas devoir revoir tes collègues. C'est souvent moins plaisant, mais tout aussi réel. Attention, ces mêmes collègues qui se chargeront de te rappeler que dès la fin de la semaine, c'est à leur tour de prendre un charter pour aller se faire plaisir pendant que toi, tu commences à appeler en commençant ton année jusqu'à tes prochains congés. Mais n'oublions jamais, en ce triste jour où la vraie vie reprend pour certains, que s'il n'y avait pas de reprise, bah, il n'y aurait pas de vacances non plus. Et que si tu m'écoutes, que tu connais exactement ce lundi-là, bah, petite astuce pour l'année prochaine, quand tu reprendras le travail, reprends directement le vendredi. Oui. C'est plus sympa, ou bien tu fais comme Lise et moi, tu pars pas du tout.
Bah oui, c'est la meilleure des solutions. Merci beaucoup, Benage.
Mais je vous en prie.
C'est vrai, ne partons pas en vacances. Vous partez un petit peu, Sébastien Castro, ou c'est...
Je partais pas du tout, et depuis 2 ans, j'ai découvert que j'aimais bien les vacances.
Ah oui. C'est bien, vous avez fait une découverte tardive. Ouais, c'est pas plus mal.
Je vous ai dit que j'ai toujours un train de retard.
Bah oui, visiblement, oui. Mais c'est pas mal pour les vacances.
Oui.
Vous partez longtemps?
J'ai eu un mois.
Oh là là.
Mais oui.
C'est la chance.
Je suis désolé.
Non, c'est pas grave.
Et puis avant, j'étais parti aussi un mois.
Là, vous avez 2 mois.
Oui, mais c'était pour la tournée, c'était pour votre
test. Non.
En plus des 1 mois, d'accord.
Oui, j'ai eu 2 mois.
Oh là là.
Enfin, sur le premier mois, j'ai quand même écrit un petit peu. Sinon, ça aurait fait
trop. On s'ennuie quand même, non?
Ah oui, moi très vite. En vacances, oui, j'ai besoin d'avoir quand même une petite...
Qu'est-ce que vous aimez faire alors pendant les vacances? Vous êtes tout du genre hyperactif?
Hyperactif n'est pas le bon mot.
Non plus. Non. Alors qu'est-ce que vous aimez faire?
J'adore cuisiner.
Ah, on en reparlera tout à l'heure.
Ah oui, mais oui, ça nous fera une transition.
Bah,
très
oui,
bien.
Tout à fait. Ouais. Et alors, donc, cette pièce, J'ai envie de toi, vous l'avez écrite et vous jouez aussi dedans. C'était irrésistible de ne pas jouer dans cette pièce, ou c'est juste que vous dites, bah, je peux m'écrire un rôle, c'est quand même cool?
Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
C'est vrai.
Et que, enfin, on m'a déjà écrit des rôles magnifiques, mais du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer de me faire quelque chose de sympa, et de faire quelque chose de sympa aussi pour les autres, et voilà, que chacun ait une partition à jouer. Je crois que c'est le cas. Enfin, vous me direz.
On leur posera la question. Bah, oui. Avec grand plaisir, évidemment. Oui. On a parlé du décor tout à l'heure. On n'a pas parlé aussi du fait que l'intrigue se passait en temps réel. Qu'est-ce que ça implique? Et j'imagine que c'est très dur en termes d'endurance peut-être pour les acteurs. Ou même, qu'est-ce que ça a de difficile?
Pour moi, c'est le contraire.
Je trouve
que
c'est plus simple.
Les interruptions, ce qu'on appelle les noirs, le fait d'arrêter, de devoir reprendre, je trouve que ça vous
casse le rythme?
Un peu, ça peut. Et commencer une pièce et se dire on est parti pour 1h30 et rien ne peut se passer, à moins qu'un spectateur fasse un malaise, c'est déjà arrivé. À ce moment-là, on arrête.
D'accord.
Enfin, sur d'autres pièces. Hein.
Oui, ok.
Ouais. Vous avez l'air inquiète.
Mais oui, un peu.
Et oui, un été de canicule, un théâtre pas très bien climatisé, c'est déjà arrivé 2-3 fois. Et c'est très particulier. Mais vous avez l'air très inquiète.
Mais oui, je prends les choses très à cœur quand on m'en parle.
Oui, mais c'est compliqué à gérer parce que
est-ce que vous en rendez compte tout de suite d'ailleurs? Pas forcément.
Non, mais vous entendez les gens parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les spectateurs parlent au lieu de nous écouter? C'est très vexant. Et au bout d'un moment, vous voyez des gens se lever. Ah là, il y a un souci.
Ouais.
Et là, il y a toujours ce truc instinctif de on ne peut pas arrêter un spectacle. Et en fait, c'est pas vrai. S'il y a un pépin, bien sûr qu'on peut arrêter. Donc dans ce cas-là, on arrête et on dit « Ah, là, apparemment, il y a un malaise, on arrête. » Et puis la priorité, c'est quand même que cette personne aille mieux.
Oui.
Et une fois qu'on est sûr qu'elle va mieux, et ben, on reprend. Mais c'est toujours très bizarre de reprendre.
Bah, j'imagine que c'est très bizarre, oui.
Et c'est, voilà, il faut un petit temps d'adaptation pour que les spectateurs se remettent un peu dans l'histoire. Mais voilà, c'était il y a longtemps, là, sur « J'ai envie de toi », aucun malaise. Et le Théâtre Fontaine est très bien climatisé.
Ah, c'est bien. Ouais. Du coup, vous nous avez rassuré. Et du coup, comment on fait pour changer les décors au milieu ? C'est-à-dire que ça se fait devant le spectateur ?
Pour changer les décors au milieu.
Du coup, est-ce qu'il y a des changements de décors qui se font en... Vous dites qu'il n'y a pas de noir, ça continue.
Ah oui, là, sur J'ai envie de toi. Non, parce que moi, quand j'écrivais la pièce, j'avais imaginé, c'était un vieux fantasme, j'avais imaginé un énorme plateau tournant et qu'on puisse passer d'un appart à l'autre, au palier. Et c'était pas du tout du goût de José Paul qui lui, dès le début, mais sauf qu'il est très fort, donc il va jamais au conflit. C'est-à-dire que dès le début, il voulait un seul et même décor et que sur scène, on ait les trois appartements, les trois espaces. Et au début, il me dit non, très bien la tournette, mais peut-être qu'on pourrait aussi demander à Jean-Michel Adam, le décorateur, d'imaginer autre chose. Enfin bref. Et petit à petit, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un seul et même décor, et il a vraiment bien fait. Je pense que pour la pièce, c'est beaucoup plus fort et le rythme est fou.
Ah, très bien. Vous nous avez donné. En tout cas, on va continuer de parler de tout ça et puis on va avoir faim tout à l'heure, dans pas longtemps. Le Club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, le hashtag c'est Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, le comédien Sébastien Castro. Sophie Massieu, vous nous emmenez dans la région de Toulouse ce matin, où exactement ? Un petit peu élargi, on est allé un peu plus loin.
Précisément dans l'Ariège, près de Foix, visiter quelque chose de très étonnant, vous allez voir.
Ah, vous voulez toujours rien nous dire ?
Un petit peu sous terre.
Ah, très bien. Sophie Moon, vous nous proposez d'aller goûter un dessert typique de la région toulousaine.
Le fénétra.
Alors, je ne connaissais même pas l'existence.
Absolu, je vous fais découvrir tout ça et puis je vous initie aux confitures
aujourd'hui. Oh là là, j'ai déjà.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Sébastien Castro, je vous propose de prendre notre machine à remonter le temps pour voyager en musique dans votre vie. Bon, on recule devant rien dans cette émission. On a énormément de moyens. Savez-vous, par exemple, quelle chanson on écoutait à la radio à l'été 75, année de votre naissance ? Vous allez me dire, vous étiez trop jeune, mais à votre avis, ça ressemblait à quoi ? Le genre de musique qu'on passait à cette époque-là.
En plus, je savais que vous alliez me poser cette question et je me suis dit,
parce que vous aviez
j'ai hyper bien bossé.
Mais oui, je sais, vous avez écouté l'émission
et
pour savoir.
Et la seule chose que je n'ai pas faite, c'est rechercher les chansons de l'été 75.
Ah là là,
c'est la disco dans les années 75, oui.
Mike Brandt.
Bien sûr.
Alors pour les autres dates, vous ne pouvez pas savoir lesquelles j'allais choisir. Donc en 2004... Alors que vous jouez dans Le Vison Voyageur de Récouni, adapté par Jean-Loup Dabadie, l'été, on faisait des chorégraphies là-dessus, autre style.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivant, ton noir, baby, ta soul.
Camaro, Like You, voilà, on est loin de Mike Brandt. Et enfin, en 2014, quand vous jouez votre seul en scène, Toutes mes condoléances, on entendait beaucoup ça à la radio. Il s'en est passé des choses depuis 75 ans. Vous écoutez quoi comme musique, Sébastien Castro ?
Alors, là, mon grand truc, c'est j'ai découvert la comédie musicale il n'y a pas très longtemps.
Vous écoutez Grise ?
Non. Mais vous pouvez, on est là pour ça. Mais je vais me venger.
Ouais, allez-y.
C'est une comédie musicale qui s'appelle Mathilda, qui se joue depuis 10 ans non-stop à Londres, qui est absolument géniale. Et du coup, en ce moment, j'écoute le CD de Mathilda.
D'accord. Vous écoutez souvent aussi des bandes originales de films, par exemple ?
Ah oui, ça peut. Vous allez me demander quoi ?
Ah non, oui.
Alors non, pas du tout.
C'est pas une question piège. Non, mais sinon, dans votre playlist, ça change en fonction des humeurs. Là, en fonction des découvertes, vous découvrez une comédie musicale.
Mais j'ose plus vous dire mes chanteurs préférés parce que c'est très, très vieux.
Mais oui, mais c'est pas grave.
Je suis dingue de Michel Berger.
Et attendez, Michel Berger, c'est une référence quand même.
Ah oui ?
Oui.
Mais c'est vieux.
Et alors ?
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas grave. Vous savez, on faisait des bonnes choses, hein. Dans le temps, comme
ah, oui.
Oui. On va sombrer dans le c'était mieux avant, c'est terrible de sombrer comme ça. Non, mais à part ça, chanson française ?
Non, je ne suis pas très calé.
Oui, d'accord. Non, pas
mais,
trop.
Mais on peut faire un quiz, mais ça va être consternant. Il n'y a pas de jeu.
Non, il n'y a pas de jeu.
Ah, non, non,
je vois que vous êtes très inquiet.
Je suis très joueur.
Oui,
ah, non, j'adore
très joueur.
Jouer.
Ah, c'est vrai, j'aurais dû vous prévoir un quiz alors.
Ah, mais improvisez-le.
Bah oui, on va préparer un blind test alors avec, je ne sais pas, des comédies musicales, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, je vous propose maintenant de partir dans la région de Toulouse où vous avez passé un petit temps, Sébastien Castro. Hein, c'était pour la pièce J'ai envie de toi.
On est resté un mois.
Oui.
Donc j'ai vécu un mois à Toulouse.
C'est bien.
Et j'ai adoré.
On va en parler tout de suite. À tout de suite pour la suite du Club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1, il est 10h10 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien Sébastien Castro, et mes acolytes Sophie Massieux et Sophie Mounz. Alors avant d'aller faire un tour du côté de la région de Toulouse, c'est l'heure de votre journal de la culture Sophie Massieux et on part pour commencer dans le Val-de-Loire.
Absolument, pour vous apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction du château de Chambord, Lise,
oui.
Sans jamais avoir osé le demander. Pour fêter le 500e anniversaire du début de sa construction, je vous invite à visiter l'exposition intitulée « L'utopie à l'œuvre » sur 2000 mètres carrés, 150 œuvres, des dessins, des manuscrits, des tableaux, mais aussi des meubles,
oui.
Retrace l'histoire de l'édifice et pas moins de 34 collections internationales ont prêté des objets pour réaliser ce grand travail. Alors François Ier, vous savez qu'un 115, le fameux,
oui.
C'est un grand roi de la Renaissance. Oui, je l'aime bien.
Vous avez quelque chose avec François Ier ?
J'ai fait des études d'histoire sur le 16e siècle.
Ah,
et j'aime beaucoup
ça.
Le 16e siècle. Donc voilà, donc c'était un grand roi de la Renaissance, il était fan des arts et de l'architecture et il avait donc pour faire ce château où finalement il n'a passé que quelques nuits, deux ou trois je crois, fait appel au génie Léonard de Vinci et on peut dans cette exposition voir certains de ses croquis et manuscrits à condition toutefois Lise de prendre un miroir.
Ah bon ?
Et oui, parce qu'il était étrange ce monsieur, il écrivait de droite à gauche.
D'accord.
Cette exposition est visible jusqu'au 1er septembre, de 9h à 18h. Elle est comprise dans le billet d'entrée du château qui coûte de 12 à 14,50 euros selon. Notez que c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Pour vous, Lise, donc ça marche.
Bah oui, oh, c'est gentil.
Et que pour 6 euros, là, vous n'y échapperez pas. Vous pouvez suivre une visite guidée tous les jours à 14h45. Attention, il est conseillé de la réserver.
Ah, ça me dit quelque
chose. Oui, si vous n'allez pas au théâtre, Lise, le théâtre ira à vous.
Ah, ben voilà une bonne nouvelle.
Mais oui, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est donc pour cette raison que j'ai choisi de vous parler d'une initiative de la région Île-de-France en partenariat avec nos confrères du Parisien et de Télérama. L'Île-de-France fête le théâtre. C'est tout ce mois d'août. C'est la troisième année consécutive que se tient cette manifestation et c'est porté par les Tréteaux de France, un centre dramatique national itinérant qui, sous la houlette de Robin Rinucci, veut pratiquer l'éducation citoyenne au travers de l'art. Tout un programme, je trouve. La volonté, eh ben, c'est d'amener le théâtre là où il n'est
Quelle
pas.
Quelle bonne idée.
En l'occurrence, en août, ce sera sur l'île des loisirs de Cergy-Pontoise, dans le Val-d'Oise donc, et sur celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines. Ah, des spectacles, mais aussi des ateliers sont proposés pour que les petits et les grands puissent découvrir cet art. Alors, je ne vais pas du tout vous lister, j'ai choisi quelques exemples. D'abord, Céleste gronde. C'est une pièce sur les dérives de la surveillance consentie depuis l'arrivée du numérique. Ça se joue ce soir, demain, puis du 16 au 18 août, pour ce qui est de Cergy-Pontoise,
oui.
Et du 26 au 28, puis le 31 août et le 1er septembre, sur l'île aux loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le spectacle dure 1h10 et il est accessible à partir de 8 ans. Quand je vous disais que c'est vraiment pour tout le monde, c'est chouette.
C'est bien, on peut emmener les enfants.
Exactement. Autre spectacle que j'ai retenu, j'aime bien l'idée, Bérénice, la tragédie de Racine, elle a été revisitée. Elle se joue demain à Cergy-Pontoise, puis du 25 au 28 et le 31 sur l'île des loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, on peut y assister, il faut être un petit peu plus grand, mais quand même à compter de 14 ans. Et puis, il y a des ateliers. Alors, on peut s'initier au théâtre, on peut travailler la lecture à haute voix, on peut essayer de faire rire ensemble, mais ça ne doit pas être simple. On peut découvrir le travail des clowns ou bien celui du théâtre d'ombre. Vous avez compris que vraiment, on
voilà,
peut en trouver
on
un peu.
On peut trouver son bonheur,
tous,
forcément.
Voilà. Et en plus, c'est gratuit.
Quelle bonne idée.
C'est gratuit.
Quelle
et pas seulement pour vous cette fois-ci. On prend un papier et un crayon, j'ai un petit numéro pour en savoir plus et pour réserver. Attention, attention, stylo. 01 55 89 12 59 01. 55, 89, 12, 59. Je fais bien, je fais bien.
Oh,
la voix de standard
super
ou pas ?
Super bien, j'adore. Ah. Place à la chanson française maintenant, Sophie.
Je me suis fait surprendre comme souvent.
Loïc, merci. Votre journal de la culture préféré vous invite en effet à vous faire plaisir en vous offrant tout autre chose. Un gros coffret récemment édité pour commémorer les 15 ans de la disparition de Serge Reggiani. Voyons, on fait plus vieux encore, nous,
oui,
que Michel Berger.
Merci beaucoup.
Je ne suis jamais seul.
Alors moi, ce texte, précisément, vraiment, il me bouleverse. Il a été écrit par Georges Moustaki, un autre jeune homme et un autre grand de la chanson française. Serge Reggiani a interprété nombre de ses textes et puis il a aussi interprété du Boris Vian et bien d'autres. En fait, il n'a pas écrit lui-même, il a été seulement interprète, mais quel interprète. Et en 50 ans de chansons, il a glissé nombre d'éléments de sa biographie. Vous saviez, par exemple, Lise, qu'il avait été barbier ?
Ah non, pas du tout, je l'ignorais.
Et eh ben, moi aussi, je l'ai appris. Alors, pour découvrir ou redécouvrir ses chansons, et puis aussi, du coup, l'air de rien, sa vie, pas moins de 16 CD composent ce coffret, édité donc par Universel. Il contient aussi deux films, donc deux DVD, Casque d'or et Vincent, François, Paul et les autres. Il en coûte 90 euros, c'est un petit peu cher, mais bon, ça peut être une idée cadeau.
Oui, vous voulez un cadeau pour votre anniversaire, Sophie ?
Non, mon anniversaire, c'est dans longtemps. Non, donc, je crois que 16 CD de Reggiani, même si j'aime bien, je pense que 16 CD, ça me ferait beaucoup quand même.
Merci beaucoup, Sophie Massieu. Sébastien Castro, est-ce que vous avez le temps de profiter un petit peu des programmations estivales, de ce genre de festival, de théâtre, par exemple ? Ou est-ce que vous, ça, c'est pas votre truc forcément
d'aller au théâtre?
Non, pas d'aller au théâtre. Mais non, il m'a regardé avec des gros yeux, mais est-ce qu'elle sait à qui elle parle?
Qu'est-ce qu'elle dit?
Non, pas du tout.
On l'a perdu, c'est lundi.
Non, vous allez au théâtre pour voir les copains ou pour aller voir?
Ah oui, bien sûr. Je vais bien sûr au théâtre voir les copains et je trouve ça génial aussi d'aller au théâtre et de ne connaître personne sur scène.
Ah, c'est bien.
C'est bien aussi. C'est ce que d'ailleurs je refais un petit peu en arrière sur Parasite.
Oui.
J'ai adoré le fait que je connaissais absolument pas ces acteurs coréens. Et ça permet encore plus de rentrer dans l'histoire, de n'avoir aucune référence et de même d'oublier que ce sont des acteurs.
Oui, de ne pas avoir d'attache.
Voilà. La question était...
Non, c'était pour les festivals.
Est-ce que vous allez dans les festivals?
Parce que vous voyez, il y a des programmations vraiment spéciales aussi. L'été, c'est l'occasion, par exemple, de faire venir le théâtre en banlieue parisienne, par exemple, pour le faire découvrir à des jeunes.
À Cergy.
Qui ne viennent pas forcément justement au théâtre à Paris.
Je trouve ça merveilleux.
Donc c'est bien. Il n'y a pas de question piège, Sébastien.
Il est très méfiant. Il ne vous fait pas confiance.
Non, vous avez vu.
Non, j'adore le principe du festival.
Ou pour aller écouter de la musique, par exemple. Ou découvrir justement des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Souvent, on va au festival parce qu'on connaît une tête d'affiche ou un chanteur qu'on aime bien. Et c'est l'occasion d'en découvrir d'autres au fil des concerts aussi.
Tout à fait.
J'ai compris que ça ne vous inspirait pas trop comme question.
Si.
Non, mais et pour le théâtre, quand vous dites je vais voir aussi des copains, c'est-à-dire que est-ce qu'on va aussi prendre l'air du temps et un petit peu voir ce qui se fait en dehors de copinage, etc. Ou
c'est indispensable. Après, c'est, la motivation principale, c'est d'aller prendre du plaisir, mais il ne faut jamais perdre ça de vue.
C'est aussi une façon de se nourrir et de nourrir l'inspiration, de regarder ce que font les autres.
Ah oui, bien sûr. Enfin, ça serait dramatique.
Même des choses très différentes de ce que vous faites vous-même.
Il faut absolument. Oui,
c'est quoi la dernière pièce que vous avez vue ?
Alors, c'est une comédie musicale qui s'appelle Chance, comédie musicale française, qui est un bijou. Et
ça joue encore
ça vient de s'arrêter au Théâtre La Bruyère, mais ils seront en tournée de septembre à janvier. Chance, d'Hervé Desvolder. Et le niveau, évidemment, le niveau de chant est formidable, mais le niveau de jeu d'acteur, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comédies musicales.
Bah souvent, ils savent bien faire l'un ou l'autre, et c'est très dur de faire les deux.
Ils savent tout faire, et c'est assez rare en France pour le souligner, ça vaut vraiment le coup.
Vous savez chanter, Sébastien Castro ?
Non, c'est pour ça que je suis très admiratif.
Ouais, vous pourriez apprendre pour jouer dans une comédie musicale ?
J'adorerais. Dans mon seul en scène, j'avais une chanson.
Faut commencer par une, avant d'en faire plusieurs.
Je m'étais énormément entraîné, beaucoup répété, et c'était à peine juste.
Ah, oui,
ça faisait pas mal aux oreilles, quoi.
Bah, c'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça. Enfin, de là, la comédie musicale, on va se calmer.
Bon, on va écouter quelqu'un qui chante plutôt juste et qui fait pas trop mal aux oreilles. Bon, c'est le titre Shallow, tiré de la bande originale du film Star is Born, Lady Gaga sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there
something else you're searching for. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
C'était Lady Gaga sur Europe 1. Dans un instant, nous irons dans la région de Toulouse. A tout de suite.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
Bon, j'ai changé la programmation musicale, mais j'ai pas pu tout changer non plus. Moi, j'ai pris plaisir à la réécouter.
Lise Pressac.
Eh ben oui, à quoi Barbie Girl ? J'ai pris beaucoup de plaisir à la réécouter. Merci Loïc à la réalisation. Il est 10h23, c'est la suite du Club de l'été sur Europe 1. Avec Sophie Massieu et Sophie Muntz, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le comédien Sébastien Castro. Alors vous avez choisi de partir dans la région de Toulouse, puisque vous y avez passé un mois pour les avant-premières de votre pièce « J'ai envie de toi ». Est-ce que vous connaissiez cette ville ? Est-ce que vous avez eu le temps de faire un peu de tourisme ?
Alors, je connaissais cette ville pour y avoir été quelques jours. Et j'ai adoré y vivre pendant un mois et je me suis vraiment laissé vivre et j'ai pris le temps de marcher, d'aller d'un endroit à l'autre à pied, d'observer l'architecture. J'adore les briques. Je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les briques. Alors là, j'étais comblé.
Là, vous êtes servi à Toulouse.
J'étais vraiment servi.
On a un peu triché. On aurait pu aller à Enghien-les-Bains, ville du Val d'Oise où vous êtes né. Vous en gardez quel souvenir ?
Oh, très bien.
Ouais.
C'est charmant. Il y a
un lac, un casino.
Oui, un théâtre. Ouais, il y a tout ce qu'il faut.
Ah bah finalement, ça suffit. Alors Sophie Massieu, grâce à vous, on se transporte à une heure de route environ de Toulouse. Et alors à 60 mètres sous terre.
Mais oui, on va dans une rivière souterraine. C'est magique, non?
Ah oui, je ne savais même pas que ça existait.
Voilà, écoutez-moi ça comme c'est beau. On va dans la rivière de la Bouiche en Ariège. Donc vous l'avez dit, près de Foix. Elle a été découverte en 1908 et puis ouverte au public une trentaine d'années plus tard. Alors pour nous la présenter aujourd'hui, avec nous Alain Oharot. Vous en êtes le directeur d'exploitation. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Sophie.
Alors, pour commencer, offrez-nous une petite visite virtuelle, parce qu'en fait, on a le petit bruit de l'eau là, mais on n'y est pas vraiment complètement, comme si on y était. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelques-unes de ces galeries ?
Alors, oui, la rivière souterraine de la Bouiche, elle est ouverte au public depuis 1935. On reçoit environ 70 000 personnes par an.
Mais dites-nous surtout ce qu'on y voit, dites-nous surtout ce qu'on y voit. Voilà, comment c'est à l'intérieur ?
Alors, on y voit tout ce qu'il y a dans une grotte, c'est-à-dire des stalactites, des stalagmites, des disques, des cascades pétrifiées. Et tout ça, on le voit dans un bateau pendant une heure et quart sur 1,5 km.
D'accord. Et alors, je me suis laissé dire aussi qu'il y avait eu des vestiges gallo-romains qui avaient été découverts.
Alors, il y a eu des vestiges gallo-romains, il y a eu des sarcophages, il y a eu pas mal de choses. Tout ça, bien sûr, ça a été entreposé au musée Raymond IV. Voilà, c'est pas sur place. Hein. on l'a stocké ailleurs.
Et alors, ces bateaux, ils sont quoi ? Ils sont à moteur ? Ils sont à rame ? Comment est-ce qu'on découvre, j'imagine qu'on...
Ah non, alors, on a tout le long du parcours, on a une lisse. Une lisse, c'est un câble. On a une barque de 12 personnes et un guide devant qui tire sur le câble. tout le long pendant une heure et quart.
Donc ça glisse tout doucement.
On apprécie le silence quand la barque navigue tranquillement. Et bien sûr, on croise de temps en temps d'autres touristes puisqu'il y a deux entrées et on croise les bateaux environ toutes les 10 minutes.
Et la température, alors il faut se couvrir un peu quand on vient ou pas?
Il vaut mieux une petite laine, oui. On est à 60 mètres sous terre, il fait 13 degrés.
Ah oui.
Et on a l'humidité de l'eau, donc on a 90% d'humidité dans l'air, ce qui est bien quand il fait très 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 chaud.
Ça peut être une petite occasion de se rafraîchir.
Et pardon, j'ai une question, Alain Moreau, c'est large comment? Parce que moi qui suis un petit peu claustrophobe, est-ce que je peux venir quand même?
Alors, claustrophobe, c'est très facile. On a un test. On fait descendre les premières marches. Si la personne.
Si ça se passe trop mal, on remonte.
Pas la descente, voilà, on remonte les quelques marches et on rembourse automatiquement le ticket.
D'accord. Ça, c'est, la... c'est bien, ah ouais. Vous êtes prévoyant.
Et alors, quel type de richesse géologique on peut trouver? Est-ce qu'il y a différentes pierres? Qu'est-ce qu'on peut.
Alors, on trouve bien sûr de la calcite, hein, puisque toutes les concrétions sont en calcite. C'est le calcaire qui s'est décomposé, qui s'est, par l'eau, a formé avec un procédé chimique en traversant le sol, a formé ces concrétions. Et les concrétions grandissent environ d'un centimètre par siècle. Et on a des concrétions qui font 2 mètres, 2 mètres 50. Et voilà, donc c'est des choses très fragiles et qui sont vraiment d'une beauté exceptionnelle.
Et certaines ont des formes un peu particulières, je crois, représentent un peu des figures fantastiques,
sûr,
si on a un peu d'imagination.
Dans toutes les grottes, vous avez certains voyez la Vierge, d'autres
ah oui,
voyez le mammouth, vous voyez, on a même le Père Noël.
Ah oui.
Hein, le Père Noël dans la salle rénale qui est très joli. C'est une formation en Y où on dirait le Père Noël avec la haute sur le dos et le bras sur la canne.
Mais vous avez une sorcière aussi, non? Je crois.
Comment?
Vous n'avez pas une sorcière? Je crois avoir lu quelque part que vous avez une sorcière.
Oui, il y a la sorcière.
Vous en avez du monde, dis donc.
Elle est très sympa chez nous.
C'est vrai, elle est sympa. On peut lui demander quoi? Lui demander de d'exaucer des vœux, des choses comme ça.
Oh, il y a le bénitier pour ça. Ah. Le bénitier où les gens mettent leurs petites pièces et font un petit vœu. Bon, ça, c'est commun à toutes les grottes.
Bon. Cet été, en tout cas, on peut se rendre de cette grotte de 9h30 à 17h. Hein. Le site internet de la grotte recommande d'effectuer les visites plutôt le matin, si on veut éviter l'affluence.
Oui,
vous confirmez?
Oui, tout à fait, parce qu'on a environ 100 départs par jour,
ah oui,
de 12
oui.
personnes. Et bien sûr, dès qu'on arrive à une certaine heure... on arrive à saturation, donc...
Bon, alors on viendra le matin.
Oui.
Vous l'avez dit, vous l'avez dit, monsieur O'Haraud, ça dure 1h15. Un guide explique tout ça pour 11,40 € pour les adultes, 2 euros de moins pour les enfants. Merci beaucoup, monsieur O'Haraud. Bonne journée.
Je vous en prie, bonne journée.
Et merci. À bientôt dans la rivière de la Bouche.
À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, Alain O'Haraud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'exploitation de cette rivière souterraine de la Bouche. Dans un instant, nous allons avoir faim, car Sophie Moons va nous faire découvrir une spécialité sucrée de la région toulousaine. Rendez-vous dans quelques minutes, toujours en direct sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. Ce matin, c'est le comédien Sébastien Castro qui nous accompagne. Alors Sébastien Castro, je crois que vous l'avez déjà un petit peu dit en préambule, est-ce que vous êtes gourmand?
Ah oui, je vous l'ai déjà dit.
Mais j'ai l'impression que vous avez... au tout début de cette émission, vous disiez « j'adore cuisiner », donc je me suis dit que
j'aime
vous étiez
encore,
quand même... Donc,
j'adore manger aussi.
Encore plus que cuisiner.
Oui, mais j'essaye de réfréner un peu l'instinct
non,
pour garder cette
plaisir.
Ligne superbe.
Mais c'est vrai, vous avez une ligne incroyable.
Merci beaucoup.
Europe1.fr, hein, si vous voulez vraiment avoir la preuve en image,
ça va faire monter l'audience.
C'est ça. Quelle est votre Madeleine de Proust culinaire, Sébastien Castro, le truc qui vous ramène en enfance directement?
Le fraisier.
Ah, ouais. Bon, alors, il est très, très particulier.
Oui.
Si avec du kirsch.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il vient d'une boulangerie-pâtisserie très
qui
précise.
N'existe
et
plus.
C'était dans les années 80. Donc, vous ne pouvez plus manger le fraisier que vous aimez. Quoi.
Non. C'est
bah oui, c'est
tellement triste.
C'était à Enguerrand-les-Bains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de propriétaire.
Ils ont pris leur retraite. Et puis, ah, oui, c'est ça. Et ils n'ont plus fait exactement le même. Et voilà, et puis quand mes grands-parents venaient déjeuner à la maison, ils venaient avec une surprise, et la surprise c'était le fraisier.
Oui, c'était pas vraiment une surprise. C'était pas vraiment une surprise.
Mais à chaque fois, vous faisiez « Oh, mais quelle bonne idée, je m'y attendais pas !»
On jouait la surprise,
oui,
bien sûr.
Évidemment.
Et ça me rendait hystérique.
J'imagine. Alors, vous venez de passer un mois à Toulouse, vous y avez mangé quoi là-bas?
Ah, des fêtes rats.
Non. Ah. Oh, il triche. En fait, Sébastien Castro.
C'est complètement de la triche.
Oui, il a fait une dentissèche tout à l'heure, c'était le fenetra.
Bah, le fenetra, pardon. Non, pas du tout.
Mais ne répondez pas ça parce que je vais vous demander qu'est-ce que c'est, puis vous n'allez pas savoir
pas
me répondre. Bah, moi non plus. Sophie Mounce, racontez-nous.
I'm coming. Voilà, d'abord, la nuit en bouche. Voilà. Ah, Nougaro, la ville rose, le rugby.
On y est.
Et bien entendu. Le bien manger,
mais évidemment.
Bien entendu. Bien je vous parle sûr. Pas de la saucisse de Toulouse, vous l'avez dégustée, la saucisse de Toulouse. Exigez la vraie saucisse de Toulouse de fabrication artisanale.
S'il vous plaît.
Évidemment. C'est ce qu'on a fait.
Bien évidemment. Sûr.
On n'a pas cessé d'exiger ça et on l'a eu.
Non, parce que vous savez que la saucisse de Toulouse, ça c'est la petite parenthèse, elle est maltraitée. Hein, parce que n'importe qui peut la produire avec du jambon made in Pologne, avec plein d'additifs.
Quelle horreur.
Et on dit non hein, dans
on
cette
non.
émission.
On s'insurge.
De la vraie et de la bonne saucisse de Toulouse.
On s'insurge.
Sinon, la pâtisserie toulousaine n'est pas en reste, évidemment. On va donc parler de ce fenetra que vous n'avez pas goûté.
Non, pas du tout.
Sébastien, avec nous depuis la ville rose, Dominique Lopez. Bonjour Dominique.
Bonjour à tout le monde.
Alors, pâtissière de mère en fils, votre fils n'est autre que le président de l'Union des maîtres pâtissiers de Haute-Garonne. Alors, à l'origine de cette pâtisserie, Dominique, une fête folklorique, m'a-t-on dit ?
Oui. On a retrouvé les fêtes du Ferretaria, qui étaient des fêtes romaines que plus ou moins à l'époque... C'était la fête des morts, mais aussi la fête des fins des moissons. Et c'était des fêtes qui sont restées toujours dans l'historique toulousain. Et là, le gâteau du fenetra est une spécialité qui se sert depuis très longtemps dans la région toulousaine.
Alors, voilà. Une pâtisserie qui fait la fierté des Toulousains, mais en même temps de moins en moins connue par les Toulousains eux-mêmes. C'est assez étonnant, ça.
Et oui, parce qu'il fut un temps où Toulouse, la ville de l'aéronautique, ne pouvait faire que des choses modernes. Les gâteaux anciens étaient considérés comme dépassés.
Mais enfin.
Mais il y a toujours eu des irréductibles Toulousains qui ont continué à le faire.
Alors aujourd'hui, Dominique, le fenetra, c'est un nom, une recette qui sont une marque déposée. En tout cas, ce sont des membres pâtissiers de l'Union des maîtres pâtissiers, justement, de Haute-Garonne, qui ont le droit de le fabriquer, c'est ça ?
Voilà, depuis un peu plus de 50 ans, donc, les pâtissiers se sont regroupés pour figer un petit peu la recette, parce que chacun avait sa variante, et le nom a été déposé, et la recette aussi, et donc ne peuvent faire ce gâteau du fenetra que les adhérents du syndicat des pâtissiers qui s'appelle Union des artisans pâtissiers. Et on doit mettre sur le gâteau aussi l'affiche qui authentifie le véritable fenetra.
Et vous êtes combien encore à l'élaborer ce fenetra ?
Eh bien, on est une douzaine, mais là maintenant, de plus en plus de jeunes se remettent à le faire et la liste s'agrandit. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver tous les points de vente sur le site le gâteau du fenetra en un seul mot. .com où vous trouverez mise à jour la liste et la localisation de tous ceux qui fabriquent le véritable gâteau du fenetra.
Voilà, de l'artisanat connecté, c'est tout ce qu'on aime. Alors dites-nous, faites-nous rêver, saliver, Dominique Lopez, ce fenetra, il y a quoi ? Il y a de la pâte d'amande, il y a de l'abricot, il y a quoi ?
C'est pas une pâte d'amande, c'est un biscuit moelleux aux amandes.
D'accord.
Avec des cubes de citron confit et une confiture d'abricot détendue au jus de citron frais.
Ouh là là, voilà.
Je pense que ça va me plaire.
Oui.
Donc, c'est tout simple, mais c'est très savoureux et ça se conserve longtemps.
D'accord.
Ça se conserve plusieurs semaines, comme tous les gâteaux traditionnels que faisaient les mamies, les mamans à l'époque. Et ça peut voyager sans aucun problème et se garder plusieurs semaines, même en dehors du frigo.
Mais donc, on l'aura bien compris, Dominique, on ne trouvera ce fenetra que dans la région toulousaine, finalement.
chez les artisans, tous les artisans pâtissiers du syndicat de Garonne.
Voilà, mais il n'y a plus qu'à aller se balader à Toulouse. Voilà. Je vous emmène, Sébastien.
Mais j'aurais adoré avoir l'info avant de.
Mais oui, c'est ça. Il faut y retourner.
Et voilà.
Faut y retourner. Oui, oui. Si vous allez à Toulouse, vous achetez un beau gâteau, un estampillé avec le savoir-faire d'un vrai artisan pâtissier. Et puis on pourra accompagner ça d'un vin doux naturel.
Dans tout le 31, voilà.
Voilà, et puis on pourra accompagner ça d'un bon vin doux naturel pour le 4h tout à l'heure.
Évidemment.
Oh, un beau maillot.
Évidemment.
Oh! Avec notre ami
madame,
c'est
plus près que ça.
Allez,
vous
arrive,
avez des
arrive.
Petits gaillacs doux qui sont très, très feux, qui se font très bien aussi. Hein.
Dominique.
Un petit gaillac doux, c'est sans problème avec le Fenetra.
Dominique, merci de faire vivre ces traditions qui, malheureusement, on vient de l'entendre, peuvent se perdre.
Mais il y a de l'espoir, parce que les jeunes artisans prennent la relève.
Il y a une émulation et c'est très, très
puis
bien.
Il y a les fêtes du Fenetra où on sert un Fenetra géant chaque
wow.
année.
C'est quand ça
en juin.
C'est quand, Dominique ?
Alors, c'est la dernière semaine de juin, la première semaine de juillet.
Ah là là,
c'est
là, là, là.
Le
mais j'étais à Toulouse.
Et là, enfin
un fenêtre géant qui fait 1,20 m de
non,
long.
Non, mais vous me dites ça, non, c'est odieux.
80 cm de large et qu'on offre à la régalade aux Toulousains.
Ah là là.
Allez, merci
c'est
beaucoup.
Monstrueux.
Vous y retournez l'année prochaine, Sébastien.
Au revoir, Dominique.
Oui, oui, et même avant. Hein.
Ben oui, bien sûr. Merci à vous, Dominique Lopez. Et je rappelle que le gâteau du Fenetra donc, est une marque déposée de l'Union des artisans pâtissiers de la Haute-Garonne. On va aller à Toulouse, ça c'est sûr, pour en déguster.
Oh,
et vous,
ça.
Quelles sont les saveurs de votre enfance, de votre région natale ou de votre région d'adoption? Vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Le hashtag Europe 1, si c'est le fraisier d'une boulangerie disparue ou pas. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations. Ce sera grâce à notre guide Sophie Massieux. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été qui se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Alors vous nous l'avez un peu dit, vous avez donc passé un mois à Toulouse et puis un petit peu de vacances.
J'ai raté le Fenetra d'un mètre 20.
Je sais.
Dernière semaine
c'est
de
terrible.
Juin,
mais
on était
terrible.
En pleine répétition, personne ne nous a prévenu.
Mais vous auriez peut-être perdu votre livre, vous auriez trop mangé.
C'est vrai.
Est-ce qu'il y a un endroit où vous retournez de façon... fréquente parce que c'est votre endroit de prédilection pour vous reposer, pour lâcher prise, pour vous ennuyer un peu ou pas?
Oui, j'ai un ami qui a une maison magique dans le nord de la Bourgogne,
ouais.
Côté de Villeneuve-sur-Yonne, avec un jardin incroyable, avec des vues, une vue sur les champs, voilà, à perte de vue.
Il faut bien choisir ses amis. Hein.
Oui.
Ouais, c'est très important.
C'est le seul intérêt de ce garçon. C'est totalement faux. C'est quelqu'un de merveilleux que j'embrasse.
Sophie Massieux, elle nous propose tous les jours de découvrir 3 lieux sur une même thématique. Et aujourd'hui, vous nous proposez de tenter une nouvelle aventure. Qu'est-ce donc ?
Lise, oui. Voulez-vous woofer avec moi ?
C'est-à-dire, je ne sais pas trop.
Je vous sens un peu réticente.
Oui.
N'êtes pas joueuse. Hein. Alors, je vous explique. Le woofing, j'aime beaucoup ce mot, c'est le fait de donner du temps, de participer aux activités d'une ferme bio.
Ah, c'est pas du tout aboyer, en fait.
Pas du tout. Ça vient de l'anglais Worldwide Opportunities on Organic Farms. En clair, vous aidez les agriculteurs, pourquoi pas dans leur élevage. Je vais y
vous
ne
laissez pas perturber par les poules.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est les poules et les coqs qui m'ont perturbé. Donc
comprends.
Vous aidez les agriculteurs, y compris dans leurs élevages, pendant 25 heures par semaine. Et en échange, vous êtes nourris et logés.
C'est bien.
C'est génial.
Pas
hein. Alors, ce n'est pas une façon de gagner de l'argent, mais plutôt d'aider les gens et de voyager de façon un peu économique, c'est vrai. Alors, on trouve des fermes qui pratiquent le woofing partout dans le monde, enfin, en tout cas, en gros, dans une soixantaine de pays.
Et donc en France aussi, j'imagine.
Eh bien, absolument. Oui, plusieurs fermes participent à ce mouvement international qui est né dans les années 60. En voici donc 3 exemples, hein, comme d'habitude, 3
oui.
idées. On part d'abord dans l'Hérault, à Mont-Blanc. Pas la crème Mont-Blanc, rien à voir.
Ah non, j'y étais aussi.
Pas taper, Sophie, on ne mange pas de produits industriels, on ne va pas à la crème Mont-Blanc. Non, non.
Elle n'a rien dit, elle s'est
non, mais revenue. J'ai senti ses gros yeux, j'ai très peur. Donc on va à Mont-Blanc.
Oui.
Entre Béziers et Agde, bienvenue au domaine des Amiels. Les Amiels, ce sont Jordan et Emeric, 2 frères qui produisent sur 15 hectares, là ça va vous plaire Sophie, des vins naturels.
Oh,
et
j'arrive.
Donc ben, vous pouvez aller woofer chez eux, parce que
on
vous
a
pouvez les
avec
aider.
Sébastien.
Voilà. Et, en général d'ailleurs, les woofers sont 2, on les accueille.
Voilà.
2 par 2, donc ça tombe très bien. Vous pouvez donc en tout cas aller aider les frères Amiel dans leur vigne, et pas seulement pendant les vendanges. Hein. Et puis, ils ont aussi d'autres activités pour lesquelles ils peuvent avoir besoin d'aide. Par exemple, l'entretien du potager. Visitez leur site internet, vous pourrez les contacter
directement pour en savoir plus.
Alors près de Nantes, on peut aussi s'adonner au woofing.
Et oui, notamment chez Elsa et Steph, un couple installé là depuis 2009 qui développe un projet vraiment complet qui vise à approcher de plus près encore l'autonomie alimentaire et énergétique. Leur domaine à eux, j'adore le nom, s'appelle l'escampette. Et une foule d'activités sont possibles pour les autres woofers. Il y a du travail à réaliser pour améliorer le compost, pour construire des réfrigérateurs sous terre.
Ah oui,
pas besoin d'aller dans la bouiche pour construire ces réfrigérateurs. Hein. On peut aussi travailler à l'entretien de toilettes sèches et de toitures végétalisées. Bref, franchement, il y a plein de choses à faire. Bien évidemment, ils pratiquent la permaculture, eux, sur 3,5 hectares.
Alors, dernier stop dans le Nord.
Oui, cette fois-ci, on va près de Lille, chez Bernard et Valérie. Leur projet, ils l'ont appelé Dream Garden.
D'accord, jardin de rêve.
Dream Garden, absolument. Et dans ce jardin de rêve, eh ben, ils vous invitent à les aider et à vous initiez à la permaculture, l'entretien du potager, l'entretien du verger, un peu d'apiculture, le soin des poules, on y revient, nos petits animaux, des poules et des coqs. Bref, vous ne manquerez pas d'opportunités. Et là encore, le domaine essaie d'atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique, notamment au travers de panneaux photovoltaïques. Alors les panneaux photovoltaïques dans le Nord, je ne sais pas, mais si ça marche bien, s'il y a suffisamment de soleil. Mais
oui, il y a du soleil dans le Nord, est chouette. Attention. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a une Belge, elle va me gronder très fort. À lire les commentaires, en tout cas, qui sont postés sur leur site. Les repas sont en plus absolument délicieux, ça fait vraiment envie. Alors Lise, finalement, est-ce que ça vous tente?
Ah bah
le
oui, je suis très tentée pour les vins naturels, pour la nourriture. Mais vous les avez prévenus tous ces gens parce que du coup, ils vont avoir plein de réservations, je pense.
Bah, en général, ils prennent les woofers de par deux, il faut réserver, on y passe une semaine ou un mois ou voilà.
Ah bah très bien.
Et c'est vraiment très très chouette, je trouve, comme idée, comme initiative.
Alors Sophie Massieu, vous nous proposez aussi chaque jour une appli qui permet de nous faciliter la vie en vacances.
Bah oui, puis tant qu'à faire, j'ai choisi une application un petit peu adaptée au woofing. Enfin, oui. En tout cas, c'est mon avis parce que comme on peut le pratiquer à l'étranger et parce qu'en travaillant dans une ferme, surtout si on n'est pas très doué et pas très adroit comme moi, on peut se blesser et donc avoir envie de consulter un médecin francophone pour se rassurer, se soigner, etc. Alors pour le prouver, vous pouvez télécharger HelloCare qui vous permet, où que vous soyez, de bénéficier d'une téléconsultation. Elle vous sera facturée 25 euros. Elle peut donner lieu donc à l'établissement d'une ordonnance. Bref, vous pouvez vraiment vous faire soigner. L'application elle-même est gratuite.
Bah merci beaucoup Sophie Massieu. On espère qu'on n'ira pas se blesser
non,
quand même
bon
en ouffant. Oui, c'est vrai, c'est voilà. Important. En tout cas, vous retrouverez évidemment...
Bon ouf à tous.
Vous l'avez déjà fait, Sophie?
Non, mais j'en ai très envie.
Oui, bah alors voilà, on cherche une deuxième personne et on ira tous ouffer ensemble. Vous retrouverez évidemment toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous le savez, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dans quelques minutes avec Sophie Moons, on commence une semaine consacrée aux confitures. Et avant ça, on écoute Camille avec Ta douleur sur Europe 1.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, ça t'aura. Chupine petite sœur, je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Où t'as peur, tu n'as pas mal là où je suis.
couleur, change de couleur, je vais prendre ta couleur. Je vais jouer au docteur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal à où t'as peur, tu n'as pas mal à où je chante.
C'était Camille sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Tout ce que je lui dis dans les oreilles en régie, qui est censé rester entre nous, après il le passe à l'antenne. Donc voilà, je dis des bêtises parfois.
Eh ben continue, vas-y.
Je suis d'une naïveté crasse, ça me m'effraie parfois.
Lise Pressac.
Mais non, vous dites pas de bêtises.
Bah, c'est vrai, quand même, génial. J'en dis beaucoup quand même. Le Club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Alors Sébastien, vous nous l'avez dit, vous cuisinez un peu. Qu'est-ce que vous cuisinez?
Alors, je peux vous faire une tarte au citron.
Ah, génial. Meringuée ou pas?
Ah, les deux sont possibles.
Très bien.
Moi, pour moi, la meringue n'est pas indispensable, mais je peux vous la faire.
Ah, c'est vrai. Oui. Bah, super.
Un soufflé à la vanille.
Ah. Donc, vous êtes plutôt pâtisserie?
Plutôt. Mais pas que.
Ah. j'aime ce suspense.
Il y a un vrai suspense.
Oui, c'est incroyable.
Non, si, ça m'amuse beaucoup plus de faire du sucré.
Oui. Bah,
ça tombe plutôt bien.
Je ne sais pas si vous faites
les confitures
avec moi.
Avec plaisir.
Oh, les frères Jacques.
Oui, on vous gâte. Hein,
dans les vieilleries exhumées, là, vous faites fort.
Oui, j'avoue.
Bon, les confitures, les amis, c'est tellement bon.
Mais alors, on dit la confiture ou les confitures, Sophie? Moi, j'ai un vrai problème avec ça.
Vous faites ce que vous voulez. Bon, hein, oui, du moment que ce soit bon, avec de bons fruits de saison, vous savez. Moi, hein.
Moi, j'étais bien embêtée.
Bah oui, la conservation par le sucre. Une méthode de conservation évidemment millénaire, le miel au départ, hein, Sébastien, et puis l'arrivée de la canne à sucre et du sucre de betterave, un sucre bon marché, et qui a permis effectivement à cette méthode de conservation, qui est un héritage du monde arabe, il faut le savoir, de se populariser sous nos latitudes. Nos grands-mères élaboraient leurs confitures, ça faisait partie d'un art de vivre, il fallait simplement pouvoir conserver les beaux fruits de saison au fil de l'année. Vous faites des confitures,
jamais,
Sébastien?
Non.
Je vous initie?
Ah oui, s'il vous plaît, j'attends que ça. Je suis suspendu à vos lèvres.
Alors, on peut se dire, oh là là, ça va être trop compliqué. En fait, pas du tout. Il ne faut vraiment pas être doué en cuisine pour s'y mettre.
C'est vrai,
faut
on peut
juste
tous le faire.
De patience.
D'accord.
Donc, là, on est en la toute belle saison des fruits. Alors, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers en ce moment en France. Je pense aux nectarines, aux pêches, aux abricots, aux melons. Bon, il y a eu la canicule, donc ça a évidemment un impact sur le prix. Mais privilégiez donc les bons fruits de saison. De bons fruits de qualité. Pas les fruits gâtés qui ont surmaturé, ils sont trop sucrés.
Ah, ça sert à rien parce qu'on se dit peut-être comment on va les écraser.
D'accord. Oui, mais s'ils sont trop mûrs, vous aurez moins de pectine, donc ça va moins bien prendre. Ah. S'ils sont trop durs, ça n'aura aucun goût. Donc effectivement, choix des bons fruits. N'hésitez pas à faire les fins de marché aussi. Ce sont des fruits beaucoup moins chers puisque les marchés liquident leur stock. Il faut le savoir.
Mais souvent, ils ne sont pas très beaux quand même.
Non, pas toujours. Il faut faire un petit tri, mais n'hésitez pas, ce n'est pas la honte, on le fait. Alors, de quoi est-ce qu'il faut disposer pour se lancer dans l'aventure confiturière, Sébastien?
Alors, donc des fruits de saison.
Voilà. Il faut des pots. Faut des
beaux fruits.
Des petits pots. Vous pouvez réutiliser les pots de maillot, de sauce. Vous les lavez bien, vous les stérilisez. Ça fera parfaitement l'affaire. Enlevez l'étiquette, hein, puisqu'après, vous remettrez une jolie étiquette par-dessus. Il faut que ce soit joli. Il vous faut, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment mieux, une bassine en cuivre.
Ah oui.
Voilà. Alors, c'est un petit investissement, mais si vous allez sur les sites de seconde main, vous en avez beaucoup à vendre. À 50€, vous en trouvez déjà. L'idée de cette bassine en cuivre, c'est de permettre une meilleure conduction de la chaleur. Et elle va aussi permettre une meilleure gélification de votre confiture. C'est ce qu'on recherche quand même. Donc, petit investissement. Vous aurez besoin d'une écumoire. Hein, ça va vous permettre d'enlever l'écume. Ce sont les petits résidus que vous allez trouver à la surface de la cuisson. Il faudra l'enlever. Et puis donc, une louche. Voilà. Ça va jusque-là?
Ah oui,
jusque-là,
on
j'ai pas la bassine, mais le reste,
voilà.
Ça.
Alors, quatre ingrédients, on l'aura compris. Des fruits, de saison.
Oui.
Bio, ce sera mieux puisqu'on va réutiliser, on peut utiliser la pelure. Donc, effectivement, il vaut mieux privilégier des produits bio. Il vous faut du sucre.
Oui, c'est oui. ça le truc.
Alors, on va utiliser, pour faire simple, du sucre blanc cristallisé qu'on a tous dans nos placards. Alors, la tradition veut que ce soit un 50-50. 50% de fruits.
Oh, c'est un peu trop sucré, moi, je trouve.
Alors oui, mais ça, ce sont les confitures à l'ancienne que pratiquaient nos grands-mères. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir Christine Ferber en Alsace, à Niedermorschwihr. C'est une petite boutique, un petit pavillon de poupées. Aujourd'hui, ces confitures se vendent aux quatre coins du monde, réclamées par les plus grands chefs. Elle, c'est 100 pour... c'est 1 kg de fruits et 1 kg de
sucre. Et la vôtre aussi, c'est ça, Sophie Mons?
Moi, je dois dire que je suis un peu de l'ancienne école, donc j'aime bien des confitures bien sucrées. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à l'allègement. Je dirais que le ratio idéal pour la confiture, c'est pour 1 kg de fruits, entre 650 et 750 grammes de sucre.
Ouais, ça me
vous
raisonnable.
Pouvez un petit peu baisser, mais franchement, au moins il y aura de sucre, au moins elle va conserver, il faut bien le savoir.
Et
il vous faut du citron. Le citron pour la conservation, pour la couleur des fruits, il faut qu'ils gardent leur belle couleur. Et puis à nouveau, il va aider à la prise de la confiture. Et puis, du gélifiant. Ce n'est pas obligatoire, certains fruits en sont pourvus de cette fameuse pectine. Je pense à la pomme, à la groseille, à la framboise. D'autres, un petit peu moins. Par exemple, la fraise, l'ananas, etc. Donc là, vous pouvez rajouter soit du sucre dit sucre de confiture, soit un petit peu enrichi en pectine, soit de la pectine qu'on retrouve en grande surface en poudre, soit carrément de l'agar-agar. Ça va gélifier simplement votre confiture. Voilà, quatre produits pour de la confiture. Jusque-là, c'est très simple.
Oui, en fait, ça va.
Vous voyez ?
Dit comme
donc, c'est
ça,
pas
c'est...
de gros investissements.
Mais ça cuit quoi, 2 heures ? C'est très long, c'est la cuisson, l'épluchage qui sont longs.
Alors non, ça ne cuit pas longtemps. En fait, je vais vous dire que pour une confiture de fraises, vous aurez une petite cuisson d'une trentaine de minutes. Donc franchement, ça peut le faire.
Oui, ça mijote. Hein. On a commencé en régie à préparer la confiture.
Moi, j'ai eu l'occasion... Il y a deux littératures indispensables. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, c'est Christine Ferber. Les petites confitures de Christine Ferber aux éditions du Chêne, elle y donne tous ses conseils. Et il y a la chambre aux confitures de Lise Bien-Aimée aux éditions de La Martinière. C'est une bible, deux bibles pour se lancer dans l'aventure. Et alors pour la petite anecdote, Brad Pitt est passé récemment chez Christine Ferber en Alsace. Ils l'ont pas reconnu, ils pensaient que c'était un oncle lointain. Et le gaillard, il a quand même ramené 400 pots de confitures.
Ah oui. C'est une sacrée commande
pour la vie. Là.
Bah oui.
Voilà. Et donc demain, je vous donnerai quelques astuces pour cuisiner les fruits de saison. Vous allez voir, c'est ultra simple. Mais donc, vous avez l'occasion aujourd'hui d'aller faire vos petites emplettes demain.
Moi, je vais faire mes courses dès ce soir. Merci beaucoup, Sophie Mouns. Et merci à vous, Sébastien Castro. Vous serez à l'affiche de J'ai envie de toi à partir du 29 août au Théâtre Fontaine à Paris et jusqu'au 5 janvier 2020. Et vous avez ensuite prévu d'être en tournée de janvier à avril 2021. Waouh.
Bah
vous
oui.
savez déjà ce que vous faites dans 2 ans, c'est... Pour moi, ça me fait un peu peur, mais bon.
Moi,
une pièce que vous avez écrite et qui est mise en scène par José Paul, et à vos côtés, on retrouve Maude Le Guénédal, Anne-Sophie Germanaz, Astrid Ross, Guillaume Cléris et Alexandre Jérôme. Sophie Massieu et Sophie Mouns, on se retrouve demain avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. On ira faire un tour du côté de la Savoie. Un grand merci à vous, auditeurs, qui nous envoyez des cartes postales. C'est votre moment, Sébastien Castro.
Ah oui.
Vous m'avez proposé de lire ces cartes postales rapidement. L'adresse, donc, c'est 2 rue des Cévennes, et on a reçu 3 cartes. J'avais pas eu le temps de les lire vendredi, donc je me rattrape aujourd'hui, et c'est Sébastien Castro qui va les lire.
Un petit bonjour à toute l'équipe du Club de l'été depuis le lac d'Annecy.
Oui.
Loïc Guillermou.
Merci Loïc.
Merci
depuis le lac d'Annecy.
On vous embrasse.
Oui.
Alors, j'ai pas répété, hein, je découvre.
Mais oui, je vois. Hein,
mais j'ai eu aucune félicitation sur la première.
Bah si, elle était très bien.
Merci infiniment. On était hyper attentif en fait.
Oui.
Amitié aux copains du Club de l'été. Oh là là.
Du belvédère de
Revard,
de Revard,
en Savoie.
Oui, c'est ça.
Voilà, merci pour ce bon programme avec vous. C'est quoi ça ?
C'est Ludwig. Merci beaucoup, Ludwig.
Voilà,
et une dernière rapidement, Sébastien.
Bien sûr, lisez-la.
Ah, oui, en fait, je vais faire très vite. Elle vient de Guadeloupe et il nous écoute depuis son lit. Merci à Papy de Mornalo qui est en Guadeloupe. Merci à vous pour toutes vos cartes postales. On se retrouve demain pour le Club de l'été. Merci Sébastien
Castro
d'avoir joué le lecteur. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.